Une campagne en Kabylie, récit d'un chasseur d'Afrique, d'Erckmann Chatrian. Écoute, me dit mon ami Gogel, tu es un homme de paix, un homme amoureux du bétail, des abeilles et de tout ce qui regarde la vie des champs. C'est tout naturel. De père en fils, dans la famille, on ne fait que labourer, semer et récolter. Mais il ne faut pas croire que les autres vous ressemblent. Il ne faut pas dire non plus que l'Éternel est avec vous seul. Si l'Éternel n'aimait que la paix, est-ce qu'il aurait créé et mis au monde les éperviers pour manger les poules, les loups pour manger les moutons et les brochets pour avaler les carpes? Quant à moi, je ne te cache pas que j'ai toujours eu plus de plaisir à me sentir un bon cheval entre les jambes, un sabre à la ceinture et un mousqueton sur la cuisse, que d'être assis devant une charrette pour conduire des légumes au marché. Que veux-tu ? À chacun son caractère. Le plus beau jour de ma vie, c'est le 30 mars 1871, quand Grosse, vieux trompette au premier chasseur d'Afrique, à Blida, sonna vers 1 heure au fourrier de tous les escadrons, et qu'en entrant dans la salle du rapport, je vis l'adjudant Pigassé qui me souriait en se retroussant les moustaches. Je sentis aussitôt qu'il allait m'arriver quelque chose d'agréable, et je ne me trompais pas. À peine les camarades réunis, l'adjudant s'écria « Ordre du jour ! Quel numéro avons-nous ? Personne n'en sait rien. Allons, vous le mettrez plus tard. Promotion, le colonel commandant le 1er régiment de chasseurs d'Afrique nomme maréchal des logis Gogel Alban Montezuma. » Il n'avait pas fini de parler que j'étais un tout autre homme. Moi, Gogel, engagé pour la durée de la guerre contre la Prusse, maréchal des logis de chasseurs d'Afrique, au bout de 8 mois de service. Tu ne pourras jamais comprendre ça. Je me redressai, j'allongeai mon pantalon, les 2 pouces dans les poches, les épaules effacées, et je criai « Vive la France !» Les autres riaient. Et l'adjudant, refermant son cahier, me dit d'un air joyeux « Hé hé, Gogel, nous voilà le pied dans l'étrier, nous entrons dans les honneurs !» Tu penses bien que j'invitais les camarades à boire l'absinthe et que nous sortîmes tous bras dessus pour aller à la cantine. Jusqu'à 5 heures, on ne fit que rire, trinquer et se représenter la vie en beau. Mais à 5 heures, Grosse sonne encore une fois au fourrier. Nous sortons, et là, devant le quartier, on annonce que le maréchal des logis Gogel est désigné pour aller rejoindre le détachement à Tizi Ouzou avec 4 chasseurs non montés. Tu sauras que Tizi Ouzou se trouve en Kabylie, à 35 lieues environ de Blida, et que nous avons en cet endroit un fort qui protège les villages européens. Des hommes étaient morts là-bas, soit par maladie, soit autrement. On envoyait 4 de nos chasseurs les remplacer et monter leurs chevaux. C'était très bien, mais de faire porter le porte-manteau et les bagages à mes hommes pendant 35 lieues sous le soleil d'Afrique, cela me paraissait un peu dur. J'ai toujours pensé qu'il faut ménager le soldat autant que possible, et je passais le reste de la journée à tourmenter l'intendance pour faire voiturer mes chasseurs par la charrette et la vieille bique du père Lubin, qui remplissait ce service depuis 15 ans. On finit par me l'accorder. Le lendemain donc, avant le petit jour, ayant harnaché mon cheval et fait compléter les effets d'habillement de mes hommes, je leur donnai l'ordre de prendre l'avance. Moi, je courus serrer la main de mon ami Jacquel, avoué à Blida. Mon cheval piaffait à la porte. Nous prîmes sur le pouce un petit verre de Kirschenwasser qu'il avait reçu du pays, puis, nous étant embrassés, je sautai en selle et je rejoignis mon petit détachement d'un temps de galop. La vieille rue des Juifs était encore déserte. Quelques bonnes femmes donnaient leurs coups de balai le long des murs et tournaient la tête pour voir filer le maréchal des logis à franc étrier, le sabre sonnant contre la botte. Une fois hors de la porte d'Alger, j'eus bientôt rattrapé la charrette, qui s'en allait au pas, avec mes quatre chasseurs fumant leur pipe à la fraîcheur du matin et causant entre eux de choses indifférentes. Un peu plus loin, nous prîmes la route de Dalmatie, chemin stratégique qui longe le pied de l'Atlas et qui devait nous conduire directement à Larba, notre première étape. Jamais je n'oublierai le calme joyeux de notre départ. À cette heure matinale où la fraîcheur règne encore à l'ombre de hautes montagnes, l'écaille s'appelait et se répondait au milieu des blés. Elles sont innombrables en Algérie. À notre droite montait l'Atlas, avec ses broussailles de lentisques et d'ajoncs dorés. À notre gauche s'étendait la plaine de la Métidja, couverte de récoltes et ses mille ruisseaux qui sortent en bouillonnant des gorges voisines. À mesure que s'élevait le soleil, les tourterelles, les rossignols et d'autres oiseaux du pays s'égosillaient dans les sycomores et nous distinguions mieux, à travers le crépuscule, la grande masse de pierres en pyramide qu'on appelle le tombeau de la reine et tout au bout de l'horizon le grand mont du Zakhar. C'était quelque chose d'immense. Personne ne peut se faire une idée de cette abondance des biens de la terre. Si l'on avait construit des chemins de fer en Algérie depuis 30 ans, les villages seraient venus se poser par milliers sur leur parcours, comme on le raconte de l'Amérique. Nous aurions là une France plus belle et plus riche que la première. Mais nous autres, nous voulons que les villages existent avant d'établir des routes et des chemins de fer. Nous donnons des pays entiers à des gens qui ne cultivent rien. Et puis, nous avons les bureaux arabes. Tu ne sais peut-être pas ce que c'est qu'un bureau arabe. Je vais te le dire, ce ne sera pas long. D'abord, toute l'Algérie est divisée en 3 grandes provinces. Celle d'Alger au centre, celle d'Oran à l'ouest et celle de Constantine à l'est. Chacune de ces provinces a plusieurs subdivisions, qui sont administrées les unes civilement par des préfets, comme en France, les autres militairement par des bureaux arabes. Les bureaux arabes font tout dans ces dernières provinces. Ils répartissent les impôts, ils rendent justice, ils veillent à l'instruction publique. Ils ont même autorité sur les choses de la religion. Aussi, la place de chef d'un bureau arabe, quand ce serait le plus petit de tous, est une fameuse place, surtout en ce qui regarde les impôts. Un simple sous-lieutenant ruiné de fond en comble par le jeu, par le luxe et toutes les mauvaises habitudes, lorsqu'il a la chance d'être attaché à quelques bureaux arabes, paye ses dettes rapidement. Il s'achète des immeubles, il monte des chevaux magnifiques, il marche sur des peaux de lion, enfin il mène un train de pacha. Et tout cela avec sa paye de sous-lieutenant. Tu penses bien que je ne vais pas t'expliquer comment ces messieurs s'y prennent. Cela les regarde et ne regarde pas l'armée d'Afrique. Le vrai soldat est fait pour se battre, quand la patrie l'ordonne, et ne se fourre pas dans des affaires véreuses. Mais tu dois comprendre que ces gens tiennent à leur place en proportion de ce qu'elles leur rapportent et que tous les bureaux arabes considèrent l'administration civile comme leur plus terrible ennemi. Nous allions donc ainsi, tout rêveur, moi sur mon cheval négro, et les autres sur leur carriole, le vieux Lubin devant, avec sa blouse déteinte, son morceau de chapeau gris sur l'oreille, et criant à chaque pas « Hu, grisette, hu !» ce qui ne faisait pas aller la pauvre bête plus vite. De temps en temps, nous rencontrions un arabe assis sur son cheval, les genoux en l'air, comme dans un fauteuil, le grand manteau blanc rabattu sur les étriers, le long fusil en travers de la selle, ou bien une jeune femme revenant de la source voisine, sa cruche de grès sur l'épaule. On ne se disait ni bonjour ni bonsoir. Je crois que ces gens-là nous méprisent. car il passe auprès de nous sans même nous jeter un coup d'œil. Au petit village de Dalmatie, où nous arrivâmes vers 6 heures du matin, mes hommes voulurent absolument m'offrir un verre de vin, que je ne pus pas leur refuser. Ce petit vin de Dalmatie était excellent. Cela ne m'empêcha pas de leur dire, après m'être essuyé les moustaches, qu'à l'avenir on ne s'arrêterait plus en route, parce qu'un chef a des devoirs particuliers à remplir, et que, s'ils se conduisaient bien, je leur ferais part d'une 50aine de francs que m'avait prêté mon ami Jacquel, pour nous alléger les fatigues du voyage, mais que s'ils me jouaient des farces, je m'en tiendrais à la solde de route. Ils me promirent que tout irait bien, et nous partîmes, n'ayant plus qu'une 30aine de kilomètres à faire dans la journée. Tout en marchant, je riais en moi-même des chasseurs de notre pays, qui se fatiguent du matin au soir à courir après un lièvre, tandis qu'à chaque massif de chênes, de lentisques ou d'aloès, partaient des compagnies de perdrix dans toutes les directions. Voilà ce qui s'appelle un pays giboyeux. Et quant à la culture, je n'en parle pas. On peut dire que tout pousse à foison. C'est là que devraient aller, avec leurs femmes et leurs enfants, les pauvres diables qui s'épuisent à faire pousser du seigle et des pommes de terre dans le sable de nos montagnes. Mais il ne faudrait plus de bureaux arabes, car avec les bureaux arabes, nous aurons toujours des guerres en Afrique, et ceux qui cultivent ont surtout besoin de la paix. Quelquefois, en levant le nez, nous voyons par-dessus les mûriers, les oliviers et les autres arbres, tout au haut de la côte, un berger arabe appuyé sur son grand bâton, qui nous regardait en silence. Après cela, pour finir de te peindre le pays, nous rencontrions aussi de loin en loin un kabyle, autre espèce d'indigène particulièrement adonnée au commerce. Ils vont rarement à cheval, étant de vrais montagnards, et passaient auprès de nous fiers comme des patriarches, avec leurs burnous graisseux et leurs belles mules chargées d'outres pleines d'huile. L'huile est le plus grand commerce de Kabylie. Dans chaque village, on trouve un pressoir où les gens apportent leur récolte d'olives. Les Kabyles approvisionnent aussi nos marchés d'oranges, de citrons, de pêches, de grenades, de melons, de concombres, de poivrons, d'aubergines, enfin de tous les fruits et de tous les légumes qu'ils cultivent autour de leur village. Les grains viennent dans la plaine. C'est l'affaire des Européens et des Arabes. Mes chasseurs s'étaient mis à chanter des gaudrioles qui les faisaient rire, et puis de ces vieilles chansons que le régiment avait chantées en Crimée, en Italie, au Mexique, et même à Lunéville, en Lorraine, avant d'aller à Metz et à Sedan, où les trois quarts de nos anciens avaient mordu la poussière. On devenait grave en pensant à ces braves, qui tous avaient fait leur devoir et qui dormaient maintenant dans les brouillards de la Meuse et de la Moselle. Mais bah, il vaut mieux être mort que de vivre comme ces gens qui rendent leur épée pour sauver leur peau et leur fourgon. Au moins, on ne connaît pas la honte, et votre mémoire élève le cœur des enfants de la patrie. Finalement, à 4 kilomètres de l'étape, je partis en avant, sachant trouver à Larba mon camarade Relin, détaché depuis environ 15 jours avec 20 hommes à la garde d'un convoi de poudre. Comme j'approchais de Larba, j'aperçus en dehors des murs le bivac, les fourgons, les tentes, les chevaux au piquet. J'y courus d'abord, et je crois voir encore mon vieux Relin, la barbiche en pointe, le képi sur l'oreille, en train de raccommoder une de ses bottes. Je l'entends me crier en passant la tête à travers sa tente toute décousue. « Eh, c'est Goguel ! D'où diable sort-il ? Ah ça, mon vieux, tu m'apportes la solde du détachement ? Ma foi non, je n'ai rien à ton service, sauf un bon appétit que je te recommande. » Alors il se mit à rire. « Eh bien, descends de cheval, dit-il. » Et se tournant vers son chasseur, qui bouchonnait les chevaux plus loin, il lui cria. « Mathis, tu vas mettre le cheval du maréchal des logis au piquet. Tu veilleras à ce que rien ne lui manque. »« Oui, maréchal des logis. » Et tu préviendras le cuisinier, que nous aurons une bonne fourchette de plus au râtelier. » Là-dessus, il sortit en me prenant par le bras. « Arrive, dit-il, nous allons boire le vermouth en attendant que tout soit prêt. » Nous passions déjà le petit mur du bivac, quand se retournant encore une fois, les deux mains devant la bouche, il cria « Mathis, tu viendras nous prendre à l'auberge du colon économe. » Le chasseur fit signe qu'il comprenait et nous enfilâmes une ruelle juste en face du bivac. Larba est un grand et beau village européen, à l'embranchement de la route stratégique de l'Atlas avec celle d'Alger à Aumale. Ces maisons sont bien alignées, bien bâties, couvertes de tuiles et blanchies à la chaux. Le village a son église, sa gendarmerie, son grand moulin sur l'oued Djemma, une belle place carrée plantée d'arbres, une grande fontaine en croix. Et dehors, à l'endroit où nous étions campés, un marché de grains et de bétail où viennent deux fois par semaine tous les marchands des environs. Un peu plus loin, nous entrâmes à l'auberge du colon économe, qui forme le coin de deux ruelles et présente une assez belle apparence. Mais nous eûmes à peine le temps de nous asseoir, car Mathis vint nous appeler à midi juste, et nous retournâmes au bivac où mes hommes, arrivés depuis un instant, faisaient honneur à la gamelle des camarades. Relin et moi, tous les deux assis sur notre selle, à l'ombre de sa tente, nous dînâmes d'une bonne poule au riz. Et comme j'avais eu soin d'apporter de l'auberge une bouteille de vin, rien ne nous manquait. Puis, nous prîmes notre café. Tout en mangeant et nous rafraîchissant, Relin me raconta qu'un caïd des environs d'Aumale avait refusé ses appointements et venait de nous déclarer la guerre. Que les 3e et 4e escadrons du régiment, détachés à Alger, étaient partis pour Aumale en doublant les étapes, laissant sous la garde de quelques chasseurs 20 voitures encore là, près des nôtres, et qu'il attendait d'une minute à l'autre l'arrivée d'un bataillon du 1er Zouave chargé d'escorter le convoi. Il me dit aussi que les diligences d'Alger n'arrivaient plus et que les Arabes avaient commencé par couper les fils télégraphiques. Tout cela m'étonnait, car à Blida, le matin même, il n'avait été question de rien. Relin m'assura que les Arabes avaient essayé d'acheter des cartouches chasse-peau à ses hommes, ce qui le forçait d'ouvrir l'œil. Oui, cela me surprit d'abord. L'idée de croiser le sabre avec les Arabes me réjouit ensuite. Et rêvant à ces choses, j'allais faire un petit somme sous la tente de Relin. Vers 4 heures, il m'éveilla, tout était en ordre, les chasseurs à leur poste, et nous retournâmes à l'auberge du colon économe. Des négociants d'Alger, marchands de grains et de bétail, arrivés sans doute pour le marché du lendemain, remplissaient la salle. Ils buvaient de la bière et les deux filles de l'aubergiste avaient bien du mal à servir tout ce monde. Ces négociants, avec leurs chapeaux de paille et leurs grosses vareuses, semblaient être de bons enfants. La vue de l'uniforme leur fit plaisir. Ils nous invitèrent à prendre de la bière avec eux. Relin accepta et bientôt on se mit à parler de politique. Un petit vieux, la tête toute blanche, les yeux vifs et le nez pointu, rejetait tous nos malheurs sur l'Empire. Il savait tout ce qui s'était passé dans la colonie depuis 40 ans et tapait sur la table avec son petit poing. Il racontait 1000 abominations des bureaux arabes, des congrégations de jésuites, des sociétés financières, etc., etc. Je ne sais pas où ce petit homme avait pris toutes ces histoires. Et la seule chose qui m'en revient aujourd'hui, c'est la fin quand il s'écria « Oui, messieurs, nous en sommes là. C'est triste, c'est pitoyable. Mais attendez, vous en verrez bien d'autres. On raconte déjà que du côté de Bordj-Bouaredj, les affaires se gâtent, que Mohamed El-Mokrani s'est révolté. Eh bien, je ne serais pas étonné qu'il y ait encore du bureau arabe là-dessous. On dit que le nouveau gouverneur général, M. de Guédon, arrive muni de plein pouvoir du gouvernement de la République et que son premier acte sera la suppression des bureaux arabes. J'en doute, car M. de Gouadon est un royaliste clérical. Mais les bureaux arabes, se croyant menacés, peuvent bien faire une petite insurrection, comme ils en ont fait tant d'autres, pour prouver encore une fois qu'ils sont indispensables. Pas un des autres négociants ne lui donna tort. Au contraire, ils semblaient tous être de son avis. Et quant à nous, cela ne nous regardait pas, nous écoutions sans rien dire. Vers le soir, ces gens sortirent et nous restâmes seuls à prendre de la bière, regardant les deux filles de l'aubergiste, mesdemoiselles Marguerite et Marie, une jolie brune toute vive et une belle blonde, remettre un peu d'ordre dans la maison. La plus jeune finit par dresser la table pour le souper, et l'aubergiste, Monsieur Pouchet, un homme grand et sec à mine respectable, sans doute content de notre bonne tenue, nous pria de manger la soupe en famille, ce que nous acceptâmes de bon cœur. J'eus soin de laisser tout le monde prendre place et de m'asseoir ensuite à côté de mademoiselle Marie, dont les yeux bleus et les cheveux blonds me rappelaient les jeunes filles des Vosges. Te dire ce qu'on mangea, j'en serais bien embarrassée. C'était, je crois, une soupe aux haricots et puis un gigot à l'ail avec de la salade. Mais ce que je puis affirmer, c'est qu'à notre retour au bivac vers 10 heures, j'aurais donné mes galons pour être toujours assis à côté de mademoiselle Marie, et que cette nuit-là, n'ayant pas dépaqueté ma tante et m'étant couchée près de Relin, je l'empêchais de fermer l'œil à force de lui ravacher mon admiration et mon enthousiasme. La nuit était magnifique, claire, couverte d'étoiles. Les rossignols chantaient à plein gosier dans tous les orangers du voisinage, et la bonne odeur des fleurs me rendait fou. « Tu dors, Relin ? Tu n'as pas honte de dormir ? » disais-je en le poussant du coude. « Non, non, je t'entends bien. « Va toujours, » faisait-il en se remettant tout doucement à ronfler. « Je t'écoute. » Enfin, au petit jour, je me levais. Je donnais sa ration à Négro, j'éveillais le père Lubin qui se dépêcha de fourrager sa haridelle. Les chasseurs préparaient déjà leur café. Matisse nous apporta le nôtre. Puis, mon cheval étant harnaché, mes hommes sur leur charrette, je serrai la main de Relin. Et nous voilà partis pour l'Alma, notre deuxième étape. En traversant le village, je m'arrêtai 2 secondes devant l'enseigne du Colon Économe, espérant revoir mademoiselle Marie et lui dire adieu. Mais tout dormait encore à la maison, et ce n'est que plus loin, au tournant de la rue, en donnant un dernier coup d'œil à l'auberge, que je vis M. Pouchet pousser ses volets et me dire de la main « Au revoir. » Voilà l'existence du soldat. On arrive sans penser à rien. Deux grands yeux vous entrent dans le cœur. On voudrait rester, mais la trompette sonne, en route. Durant plus d'une heure, je ne fis que songer à cela. Puis mes idées prirent un autre cours. Le pays changeait. Les broussailles succédaient aux cultures le long de nos chemins. Dans un certain endroit, en nous détournant, nous vîmes à gauche, par-dessus la plaine, un coin de la mer et la ville d'Alger sur le fond bleu du ciel, avec ses maisons blanches autour de la rade. La charrette s'était arrêtée. Mes chasseurs et le père Lubin regardaient aussi. On sentait comme une odeur de marée que nous apportaient de petits coups de vent frais venant du large. Puis, nous étant remis en route, nous arrivâmes au Fondouk, village revêtu d'anciennes fortifications. On y fait un assez grand commerce de grains et de bétail. Et pour notre compte, nous achetâmes en cet endroit des pommes de terre et du lard. Le bois manquait, c'est pourquoi nous partîmes, traversant à gué le ruisseau, qui sort de l'Atlas. Mais alors commencèrent nos misères. Le chemin à chaque pas devenait plus abominable. Les roches suivaient les roches. D'une fondrière, on entrait dans une autre. La vieille bique n'en pouvait plus. Le père Lubin jurait, le chasseur criait, rien ne servait. Pour comble de malheur, voilà qu'à 2 kilomètres du village, l'essieu de la charrette se casse. Il faut retourner au galop demander où se trouve un forgeron pendant que mes hommes attendent. On m'en indique un sur la route que nous devions suivre. Je reviens, on a déchargé la carriole, on tape sur la vieille rosse, on crie pour la faire avancer. Enfin, elle marche et nous arrivons à 3 kilomètres plus loin devant une masure où, par bonheur, se trouvait le forgeron Rivero, un mahonnais, petit homme basané, qui demeurait là dans la solitude avec 3 enfants. Aussitôt arrivés, nos misères étaient oubliées. Et pendant que le soufflet allait à la forge, que le marteau sonnait sur l'enclume, mes chasseurs s'occupaient à chercher du bois, des artichauts, des oignons, de la salade, dans le petit potager derrière la baraque. D'autres faisaient la cuisine. C'est là que j'ai mangé pour la première fois une omelette au blanc d'artichaut, et je puis t'assurer que c'était excellent. La charrette raccommodée, Rivero payé, on se remit en chemin. Quelques crottes marquant la route à travers les cactus, les aloès, les lentisques, les rochers, les creux, les fondrières de toutes sortes. Au bout d'une heure, personne ne savait plus où nous étions. Et cette bonne odeur de marée que nous avions sentie au fond d'Ouc, avec les petits coups de vent, nous avait amené des nuages qui crevèrent sur nous d'une manière épouvantable. Il faut avoir vu un orage d'Afrique, ces coups de tonnerre et ces torrents d'eau qui n'en finissent plus. Le pire, c'est que nous aurions été bien embarrassés de revenir parce que nous avions perdu notre chemin. Heureusement, après la grande averse, en regardant de tous les côtés, j'aperçus de la fumée à travers les broussailles. On marche dans cette direction et quelques centaines de pas plus loin, nous arrivons près d'un gourbi arabe sur le bord d'un petit ruisseau. Représente-toi une hutte de charbonnier. Au milieu de la hutte, quelques brindilles qui flambent, 3 ou 4 arabes qui dorment, une vieille accroupie devant le feu, un jeune arabe qui coupe des feuilles de tabac, 2 chiens maigres qui grognent et un enfant qui dort sur une peau de mouton. Voilà ce qu'on appelle un gourbi dans ce pays. Il pleuvait toujours, et ces gens, en train de préparer leur café, furent bien surpris de voir apparaître au milieu d'eux un maréchal des logis à cheval, des chasseurs le mousqueton en sautoir, puis la charrette et le père Lubin. Ils regardaient tout inquiets. Je leur demandai du café pour mes hommes et pour moi. Le jeune homme se dépêcha de nous en chercher à leur gamelle. Après cela, je n'eus qu'à leur demander notre chemin, et les pauvres diables nous le montrèrent par les petits villages de Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous arrivâmes à l'Alma sur les 6 heures du soir. C'est une longue file de maisons traversée par une belle rivière qui galope sur le gravier en sortant de la montagne. On y trouve un grand lavoir où les femmes sont agenouillées et battent leur linge comme en France, des auges où s'abreuve le bétail, une église, une gendarmerie, des jardins, des auberges avec leurs portes cochères où stationnent des voitures et des voyageurs. Comme l'orage avait détrempé la terre, nous ne voulions pas bivaquer. Je dis à mes hommes de me suivre et nous descendîmes à l'auberge du Roulage. Cette auberge me rappelait tout à fait celle de notre bon pays de Lorraine. Elle avait grange, écurie, hangar, grande cour derrière pleine d'oies, de poules, de pintades. Je demandai à l'aubergiste, jeune homme d'une 30aine d'années, la permission de mettre nos chevaux dans son écurie et de laisser mes chasseurs se coucher sous le hangar. Il y consentit volontiers. Après avoir déposé leur sac, mes hommes voulurent aller pêcher dans la rivière. Je n'y vis pas d'inconvénient et ils partirent. Moi, m'étant changé, j'allais percevoir nos bons de vivre chez le fournisseur et faire signer à la gendarmerie mon ordre de Je pourrais te raconter l'heureuse rencontre que je fis là du brigadier Lefebvre, grand gaillard à la figure militaire et le cœur sur la main, qui m'invita d'abord, selon l'habitude, à prendre l'absinthe et puis à dîner. Le retour de mes chasseurs avec une magnifique pêche de barbeau qu'ils accommodèrent eux-mêmes à la buanderie. Et puis pendant notre dîner, dans la grande salle tapissée d'une superbe chasse au lion, l'arrivée du brigadier du col de Beni Aïcha, lequel avait les fièvres et voyait tout en noir, tandis que nous autres, nous chantions la chansonnette et voyons tout couleur de rose. Oui, je pourrais m'étendre sur ce chapitre et te raconter notre visite à l'auberge du Veau qui tète, où le brigadier Lefebvre était comme chez lui, mais tout cela nous traînerait trop en longueur. La seule chose que je ne veuille pas oublier, c'est l'arrivée en cet endroit du maître d'école Wagner, de Rothau, que tu as connu dans le temps, tu sais, le petit maître d'école alsacien avec favoris rouges, sa grande bouche et ses yeux couleur de faïence. Le brigadier Lefebvre et moi, nous étions en train de chanter et de rire, quand tout à coup débarque d'une patache qui venait de s'arrêter devant la porte, une jeune femme avec ses paquets et ses cartons. Le brigadier crie « Hé, c'est Madame Wagner !» On l'aide à déballer, on l'invite à prendre place et notre joie redouble, parce qu'une jolie figure est toujours agréable à voir. Cette dame parlait de son mari, de leur exploitation à la grande ferme de San Salvatore. Je l'écoutais en admirant ses beaux cheveux bruns et ses dents blanches. Et voilà que le mari débarque par une autre patache. Il entre, je tourne la tête. C'était mon vieux camarade Wagner de Rothau. Oui, c'était lui-même. Mais il avait aussi les fièvres. Il était maigre comme un hareng sort. Nous nous reconnaissons. Il ouvre ses bras en criant. Montezuma Goguel de Saint-Dié, Dieu du ciel. Et là-dessus, il me dit d'embrasser sa femme, ce que je fis avec plaisir. Nous buvons, nous causons du pays, de nos excursions à Fondet dans les Vosges, chez le père Guénière, du kirsch, du bon lard fumé, des grives, de la truite, des écrevisses, du petit vin blanc de Mutzig. L'eau nous en venait à la bouche. La femme de Wagner riait, les deux brigadiers aussi. Celui du col de Beni Aïcha n'avait plus les fièvres. Enfin, qu'est-ce que je peux te dire, le bonheur de rencontrer un camarade de jeunesse à 500 lieues du pays en pleine Afrique. Nous restâmes là jusqu'à 5 heures du matin, moment où nos chasseurs arrivèrent avec mon cheval, la charrette et le père Lubin, prêts à partir. Les embrassades recommencèrent, puis je remontai sur Négro et n'ayant pas dormi 2 nuits de suite, je m'endormis tranquillement en selle, sans voir où nous allions. Heureusement, la route est droite, et de l'Alma aux Isères, on compte 36 kilomètres, j'avais du temps devant moi. Jusqu'au col de Beni Aïcha, nous montions et je dormais. C'est à peine si j'ouvrais de temps en temps les yeux comme en rêve. Les arbres et les broussailles défilaient lentement. Mais en haut du col, l'air vif me réveilla tout à fait. Le Jurjura, ce géant de l'Atlas, était là devant nous, couvert de neige, et ses grands contreforts de la Kabylie serpentaient à nos pieds dans la plaine des Isères. C'est la retraite des lions. L'Afrique, avec ses forêts d'oliviers, ses villages blancs, ses mosquées, son beau soleil, nous souriait toute joyeuse. Qui se serait jamais figuré que la guerre allait se promener là-dedans, avec le pillage et l'incendie. De ce point, notre route descendait, laissant à droite celle de Constantine. Personne ne se doutait de rien, nous allions sans méfiance, et vers midi nous arrivâmes aux Isères, large vallée où se réunissent plusieurs ruisseaux, avant de se rendre à la mer. Nous passâmes sur un pont. Quelques 100 mètres plus loin, nous trouvâmes le grand caravansérail, vaste construction carrée, une cour au milieu, un magnifique sycomore à droite de la porte, où s'arrêtaient autrefois les caravanes, et loué maintenant à un marchand juif. À droite de cette bâtisse se tient en plein soleil le marché des Isères. Là, les vendredis matins vers 8 heures, tout est encore désert. À midi, 30 000 personnes se pressent et marchandent. Huile, grains, tabac, corbeilles pleines de racines, d'oranges, de pêches, monceaux de melons. Cafa à 5 et 6 étages remplis de volailles. Tout s'entasse sur ce vaste terrain battu. Les Kabyles y mènent leurs bœufs, leurs mules, leurs juments, leurs baudets. On y voit des Juifs discuter comme chez nous. Des montagnards kabyles, toujours sérieux, les écoutaient en fronçant le sourcil. Des caïds se promenaient gravement sur leurs chevaux superbes. Des spahis en manteau rouge allaient et venir pour maintenir l'ordre au milieu de cette foule. À 5 heures, plus une âme. Tout est fini. Des milliers de moineaux sortis du caravansérail et de son grand sycomore voltigent seuls de place en place et se livre bataille pour un crottin. Voilà le marché des Isères, un des principaux de l'Algérie. Comme nous n'étions pas à vendredi, rien ne paraissait. Nous fîmes halte à l'auberge en planche de Monsieur Paul, un brave homme, alors tellement miné par les fièvres qu'il ne tenait plus sur ses jambes. Dans cette auberge s'arrêtaient les officiers allant de Délis à Dra el Mizan. Elle était pleine de monde. Il fallut chercher une autre baraque plus loin où nous pûmes enfin nous abriter. Je mis mon cheval à l'écurie et mes chasseurs s'occupèrent de faire la soupe. J'appris à l'auberge qu'un maréchal des logis de la première compagnie de remonte était détaché depuis quelques jours au caravansérail avec 3 hommes et 6 chevaux et talons. Naturellement, j'attachai tout de suite mon sabre à la boucle de ceinturon et j'allai voir qui c'était.